CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre, magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Jean-François Demonet. Bonjour monsieur Demonet.
Bonjour.
Professeur médecin docteur Demonet, neurologue en neurosciences cognitives, professeur honoraire à l'université de Lausanne et directeur de recherche émérite à l'INSERM. L'INSERM pour tout le monde, Institut National de la Santé, de la Recherche Médicale, fonction qui a toute son importance aujourd'hui pour cette intervention autour de la première conférence de l'année proposée par l'Université des Savoirs Partagés, dont vous êtes membre depuis quelques mois maintenant, on peut dire, et vous apportez votre pierre à l'édifice, puisque la remarque que je faisais à Monique Cachia, présidente de l'association, c'est que j'avais la sensation qu'il y a un petit peu plus de science et de recherche dans le programme de l'université. On vous doit, il faut bien le dire, ces propositions, et vous mettez à disposition votre réseau, hein, Jean-François Demonet.
Et avec l'assentiment de tous mes collègues et amis de l'Université des Savoirs Partagés, hein, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
L'élaboration du programme est une œuvre collective.
Terrorisme, du traumatisme à la résilience, c'est l'intitulé de cette conférence qui sera donnée la semaine prochaine, le vendredi 16 janvier à 18h30, dans le confort du cinéma Vox Azur de Villefranche de Rouergue. Changement de programme, sensiblement.
Absolument. Malheureusement, le cinéma n'était pas disponible.
Oui.
Et nous avons, nous nous déplacerons à cette occasion dans l'amphithéâtre du lycée Beauregard.
Est-ce qu'on peut dire malheureusement vraiment, parce que vous êtes tenu à des horaires au cinéma Vox de Villefranche et qu'à un moment faut s'arrêter parce que vous êtes tenu par des horaires et qu'au théâtre municipal, bah, si le conférencier a le goût et l'envie de prolonger, c'est possible et peut-être que ça sera ouvert également au lycée Beauregard. Donc malheureusement, je serais tenté d'être modéré. Sur le malheureusement.
Non, c'était dans la communication parce que, ouais. Pour des raisons diverses, l'information n'a pas forcément circulé de oui. manière aussi correcte et fluide qu'elle n'aurait dû. Mais voilà, donc je le répète, la conférence aura lieu au lycée Beauregard, au même horaire, à 18h30, le vendredi, et non pas les mardis comme d'habitude, c'est un vendredi 16 janvier.
On saura le redire sur l'antenne la semaine prochaine et peu de temps avant cette conférence. Donc, lycée Beauregard, amphithéâtre du lycée Beauregard, 18h30. Et j'imagine que des membres de l'USP seront au cinéma pour réfléchir le public au lycée Beauregard. Je faisais le lien entre cette conférence et vos fonctions de directeur de recherche émérite à l'INSERM, puisque vous avez été nommé membre du conseil scientifique par la direction de l'INSERM en 2016. Et aujourd'hui, vous assumez la présidence du Conseil scientifique international depuis 2018 d'un programme, programme 13 novembre, CNRS et INSERM. Oui. C'est quoi et en quoi il consiste et d'où il est parti?
Donc en fait, c'est l'initiative de mes deux collègues et amis Denis Péchanski et Francis Eustache qui, dans les suites immédiates de ces attentats horribles qui ont ensanglanté les rues de Paris donc le 13 novembre 2015, ont décidé de tenter leur chance auprès du gouvernement de l'époque pour montrer comment il était capital de lancer une vaste étude scientifique qui est en fait devenue un programme, c'est-à-dire que dans ce programme, il y a de nombreuses études à l'intérieur, pour tenter d'aider d'abord, bien sûr, à soutenir et à comprendre ce dont souffrent les victimes de ces attentats avec 150 morts et de très nombreux blessés, à la fois directs et indirects, des blessés physiques mais aussi psychologiques. Et donc il s'est agi de mettre en place une étude qui permette d'étudier sur le long terme, ça c'est capital, c'est-à-dire sur 12 ans, successivement, par phases successives, la mémoire de ces personnes, leur état psychologique et physique, leur état, je dirais, cérébral, puisqu'il y a une petite partie qui concerne de l'imagerie cérébrale, et pour l'essentiel, à travers des interviews, à travers des enquêtes, d'étudier en quoi consiste ce fameux syndrome de stress post-traumatique. Et qu'est-ce qui le détermine? Comment est-ce qu'on peut en guérir? Comment est-ce qu'on peut hâter cette guérison? Et c'est tout cela dont viendra parler donc au cours de la conférence chez nous à l'USP le 16 janvier, le professeur Jacques Dayan, qui, je dirais, lui est le psychiatre de l'équipe, qui est un spécialiste du psychotrauma, du traumatisme psychologique, et qui viendra nous expliquer donc en quoi consiste le syndrome de stress post-traumatique, comment on peut le diagnostiquer, comment on peut le traiter et aider les patients à s'en sortir dans les meilleures conditions possibles.
Programme 13 novembre, on peut parler d'un programme scientifique exceptionnel, unique hein, même, je crois que...
Oui, c'est unique au monde.
Oui, faut le dire.
Absolument. C'est, disons, tout le mérite d'ailleurs du gouvernement français hein, qui avait lancé vraiment très spécialement et en dehors des cadres classiques cette opération de grande envergure qui a été, disons, confortablement financée.
Enveloppe de 24 millions d'euros, on peut le dire. Hein.
Donc, qui est un financement qui peut paraître important, mais qui correspond à peu près au coût nécessaire à engager pour une étude de cette ampleur qui recouvre, disons, le suivi de plus de 1000 personnes de manière longitudinale et sur 12 ans.
Voilà, longitudinal, c'est ce qu'on entend. Et puis, vous êtes laudateur de ce programme, vous faites l'éloge de ce programme
oui, parce
13
qu'il est,
novembre.
Il parce est qu'il exceptionnel, est unique et exceptionnel. Pour donner un exemple, par exemple, des études scientifiques ont été lancées après la catastrophe et les attentats de New York du 9 septembre.
Oui.
Bien sûr, c'est aux États-Unis, à New York, donc on peut supposer qu'il y avait une autre ampleur que cela. Eh bien, c'est pas le cas, en fait. C'est une étude importante, mais qui n'a pas eu ce caractère, je dirais, multidisciplinaire, qui est exceptionnel. Et aussi longitudinal.
Il est utile de rappeler que donc, c'est une initiative et une demande de la communauté scientifique hein, et qui a été relayée ensuite par les politiques sous la présidence de François Hollande. Et donc c'est Emmanuel Valls Premier ministre à l'époque, qui a donné son accord sur cette enveloppe et puis ce programme d'exception et unique, encore une fois, on peut en parler, qui repose sur deux protocoles. J'ai cru voir quelque part l'étude 1000 et l'étude Remember. Ouais. Si on avait en parlé un petit peu plus,
Oui, enfin, ce sont les deux volets les plus importants, mais il y a d'autres volets également.
Oui, c'est très vaste.
Mais disons, l'étude 1000, ça consiste en des interviews face caméra, donc audio-vidéo.
Avec la complicité de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA.
Absolument, qui assure l'archivage et la gestion de ces archives exceptionnelles. Donc ce sont des personnes volontaires, bien entendu, hein, qui ont accepté de venir témoigner et de répondre à un questionnaire bien structuré, qui leur a été proposé à intervalles réguliers, donc 3 à 4 ans d'intervalle à chaque fois. Et donc parmi, disons, les personnes interviewées, ben, il y avait par exemple le président de la République ou la maire de Paris pour recueillir donc les façons dont ils ont appris, bon, évidemment, les attentats et quelles ont été les réactions mises en place, les décisions prises. Immédiatement, à chaud, et puis quels souvenirs ils gardent de cette période tragique.
Énormément de productions durant ces 10 ans, oui. Un film documentaire, oui. Des thèses, plus d'une vingtaine de thèses, je crois avoir lu,
oui,
peut-être plus
que
encore,
ça, oui.
Pardon, une exposition, oui. À Paris, et le 6 octobre, à Caen, vous y étiez, je,
oui.
crois, Jean-François de Monet, si vous pouvez nous parler de cette journée un petit peu spéciale, où des résultats, les premiers résultats des trois premières phases, en,
oui.
fait, du programme, était présenté au public.
Alors, non seulement au public, mais je dirais peut-être surtout aux personnes victimes, à certaines d'entre elles, celles qui ont bien voulu, en tout cas, venir se joindre à nous, parce qu'il y a un devoir, si vous voulez, des scientifiques, lorsque nous réalisons une étude, c'est d'informer les personnes qui se sont prêtées à cette étude.
Une soirée bilan pour faire le point sur ces 10 ans de collectage.
Donc, il faisait le bilan et on présentait à toutes ces personnes qui avaient bien voulu participer, et donner de leur temps, je dirais presque de leur corps, puisque quand on rentre dans une IRM pour faire des expériences comme ça, on donne aussi de sa personne, vraiment, pour leur présenter les résultats. Voilà, et quels sont les résultats qui ont pu être obtenus à travers ces différentes expériences et études auxquelles ils ont bien voulu participer.
Alors, c'est une réelle avancée, hein, ces résultats. C'est la première fois qu'on obtient ce genre de données.
Oui.
Quels sont les résultats peut-être les plus marquants de ces études ?
Parmi, disons, les études épidémiologiques, puisqu'on citait l'étude 1000, mais il y en a d'autres, on a pu mettre en évidence, par exemple, que eh bien, les femmes et les hommes n'emploient pas les mêmes mots pour parler des traumatismes pourtant identiques qu'ils ont subis. On peut dire aussi qu'en fonction de son arrière-plan, de son passé, la façon d'en parler, mais surtout la façon dont on ressent le traumatisme, son souvenir et éventuellement le syndrome de stress post-traumatique est plus fréquent chez des gens qui sont moins éduqués, qui ont eu dans leur passé déjà des traumatismes, qui avaient des difficultés de vie diverses et variées, hein, de type économique ou sociaux ou médical ou autre. Donc il y a une fragilité particulière à différentes dimensions qui prédispose, en somme, au syndrome de stress post-traumatique. Et j'ajoute aussi que ce n'est pas parce qu'on est, je dirais, quelqu'un de, a priori, fort et puissant, comme un policier ou un pompier qui intervient sur une scène de drame comme ça, qu'on est à l'abri de ce syndrome de stress post-traumatique que, dans mon milieu, on abrège sous le nom anglais de PTSD, oui. Parce que c'est l'acronyme anglais. En tout cas, ce PTSD, il est observé parfois chez des gens qui, entre guillemets, dont on aurait pu penser qu'ils sont forts dans leur tête. Et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, différents documentaires, films, séries de fiction ont montré ça. C'est-à-dire qu'en effet, les policiers, les urgentistes, etc., ont tous été marqués, évidemment, par les scènes qu'ils ont vécues. Et certains d'entre eux les ont très mal vécus, puisqu'ils ont souffert de troubles psychiatriques importants et qu'il a fallu traiter très sérieusement.
Autre résultat de l'étude qu'on pourrait mettre à disposition pour améliorer, encore une fois, la prise en charge des individus, il est question de ça. Je pense notamment aux récents événements en Suisse, quelles seraient peut-être les données qui pourraient être portées.
Oui, alors merci de le dire, parce qu'effectivement, au-delà de cet épisode historique des attentats terroristes de Paris en 2015, eh bien, on peut dézoomer un petit peu et prendre un peu large et montrer qu'effectivement, ce genre d'étude permet d'améliorer la prise en charge d'autres catastrophes, d'autres tragédies, comme malheureusement ce qui s'est passé terrible à Crans Montana.
Par exemple, d'imposer la cellule psychologique pour tous les acteurs, c'est pas dire si tu veux, t'y vas, c'est de l'imposer.
Voilà, ça je pense que ce serait une bonne mesure. Même si les personnes qui sont intervenues sur le champ et qui ont été donc confrontées à ces scènes terribles, ces scènes d'horreur d'enfants, d'adolescents qui sont morts, brûlés vifs, toutes ces personnes, quelle que soit leur force de caractère, leur habitude éventuelle, doivent bénéficier d'une prise en charge, parce que on a montré que c'était le moyen d'éviter des séquelles à long terme, parce que pour reparler des attentats de Paris, 10 ans plus tard, il y a encore des personnes qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique avec des cauchemars, des reviviscences pénibles, des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'il y a certains lieux, certaines circonstances qu'on évite parce que sinon le traumatisme va revenir comme une espèce de boomerang absolument épouvantable pour le psychisme de ces personnes.
Quatre phases à ce programme, programme 13 novembre. Vous entamez la quatrième phase. Elle consiste en quoi
Justement, cette quatrième phase, elle permet de faire un quatrième point sur l'enregistrement des souvenirs des personnes qui sont portées volontaires, environ 900 personnes, en gros, qui seront revues, auront de nouveau ce questionnaire et nous permettront de mieux assurer de manière beaucoup plus ferme encore que ce n'est le cas, les quelques tendances fortes que nous avons pu identifier, avec notamment donc cette particularité du vocabulaire employé plutôt par les femmes que par les hommes, l'influence également de l'état de santé général, comment justement certains ont guéri en fait de leur syndrome de stress post-traumatique et d'autres ne l'ont pas fait, en souffrent toujours, quelles sont les caractéristiques dans le discours même des personnes qui permettent d'identifier un stress post-traumatique encore présent et celui pour lequel ils se sont montrés, ces personnes-là, au contraire, sont montrées résilientes, d'où le terme de la conférence du traumatisme à la résilience.
Conférence qui se tiendra au lycée agricole et agroalimentaire Beauregard, à l'amphithéâtre du lycée agricole et agroalimentaire Beauregard. Vendredi prochain, nous serons le 16 janvier. D'avance, une conférence passionnante pour une étude, encore une fois, une étude scientifique exceptionnelle, unique, longitudinale, que vous présidez au travers de l'INSERM et de vos fonctions de président du Conseil scientifique international depuis 7 ans, depuis bientôt 8 ans. Encore 2 ans, une association de victimes a été créée autour des attentats.
Il y a deux associations.
Il y en a une des deux qui a choisi d'arrêter pour les 10 ans. Dire, ah yeah, c'est derrière nous, on a envie de regarder.
Je conseille à tout le monde de regarder ou d'écouter les interviews d'Arthur Desnouveau, qui a présidé l'association Life for Paris, qui a effectivement un discours extrêmement intéressant, extrêmement élaboré, pour dire justement... des choses pertinentes sur la résilience, c'est-à-dire que la résilience n'est peut-être pas le fin mot, il y a peut-être autre chose. Comment c'est également finalement normal d'être toujours en colère, de ne pas vouloir non plus complètement gommer ses émotions, de laisser la liberté aux gens d'exprimer leur dépit, leur colère, parce que eh bien, quand on a été victime d'un attentat comme ça, on peut ne pas solder les comptes si facilement. Je dis aussi que ce qui a été certainement très important, c'est le grand procès qui s'est tenu donc au tribunal de Paris, hein, on dit le V13, avec des productions, des livres, hein, qui ont été écrits, notamment celui d'Emmanuel Carrère qui s'appelle V13. Et ce procès a été très important, je pense, pour tous les acteurs de cette tragédie, et évidemment principalement les victimes.
Jacques Dayan animera cette conférence terrorisme du traumatisme à la résilience. On l'a présenté suffisamment, Jacques Dayan. En tout cas, le programme 13 novembre, c'était essentiel de dire que se cachait derrière cet intitulé, ce programme encore une fois unique et exceptionnel, porté par la communauté scientifique. On en saura plus la semaine prochaine à l'amphithéâtre du lycée agricole et agroalimentaire Beauregard. Mais c'est pas la première actualité de l'Université des Savoirs Partagés. Vous nous proposez une causerie lundi prochain. Causerie du lundi, animée par, alors je ne sais pas s'il y a des liens en particulier, Geneviève Demonet, allergologue, aujourd'hui invitée par l'USP.
Donc effectivement, à part les conférences, il y a les causeries de l'USP. Il se trouve que mon épouse Geneviève, docteur Desmonet, allergologue, présentera une causerie à l'Hôtel des Florines à 18h le lundi 19 janvier. Et son thème, c'est allergie et intolérance alimentaire. Et j'ai peut-être une opinion un peu biaisée, mais je pense que la conférence est intéressante. Voilà.
Merci une nouvelle fois, professeur Jean-François Demonet.
Avec plaisir.
À très bientôt dans ces studios. Le rendez-vous est pris lundi à l'Hôtel des Florines pour la première causerie du lundi et première animation de l'USP de l'année. Et vendredi 16 janvier à l'amphithéâtre Beauregard. C'est important de le dire et de le redire pour cette conférence du professeur Jacques Dayan. Terrorisme du traumatisme à la résilience. Merci. C'était le mag de ce jeudi. L'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr et à bientôt pour une nouvelle édition du magazine d'actualité. La suite du programme dans un instant.
CFM Villefranche, le mag.